www.libradio.org. Libre Radio, la radio qui t'écoute. Soutiens la radio. Cagnotte populaire solidaire sur le site, merci.
Nous sommes le 1er février, c'est le dernier entretien a priori depuis le CILUR qui est donc un centre social autogéré à Genève qui se situe au 3 Sentier des Saules et qui aujourd'hui accueille une grande friperie aujourd'hui et demain le 2 février. C'est alors un moment magnifique où plein de gens viennent se procurer gratuitement des habits chauds pour l'hiver pour les petites et les petits, les grandes et les grands. Il faut savoir également que le CILUR organise toute une série de choses tout à fait extrêmement intéressantes et que ces informations-là on les retrouve regroupées évidemment sur Facebook mais surtout sur renversé.co. Pour cette quatrième partie d'émission, nous allons parler Mapuche, nous allons parler du Chili, des populations autochtones. Alors les invités, justement, qui sont-ils? À ma droite, Marcela, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Donc tu fais partie de Missol, tu vas nous dire qu'est-ce que ça signifie. Vous sortez d'un long moment d'activité intense avec un festival itinérant, un festival de solidarité, d'où le nom Missol, mais tu préciseras après. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as pu te reposer ou non? La lutte n'attend pas.
C'est ça. Je suis pas du tout reposée et on continue sur la lancée, mais ça va très bien.
très bien. Wariwe, bonjour à toi.
Bonjour.
Alors toi, tu fais partie du collectif ou de l'association, tu nous diras, Red Mapuche Suisse.
Voilà.
Alors, voudrais-tu en dire déjà quelques mots?
Voilà, alors Red Mapuche Suisse, ce n'est pas un collectif ni non plus une association, c'est un réseau. C'est un réseau d'informations qu'on fonctionne pratiquement sur Facebook et sur WhatsApp où on diffuse le maximum d'informations. En coordination évidemment avec plusieurs groupes, notamment prêts à collaborer avec tout ce qui touche les droits humains, qui est une ligne convergente qui nous correspond bien. Mapuche, gens de la terre, Mapuche, gens de la terre du Chili.
Très bien. Nous allons évidemment aller plus loin tout à l'heure. Et enfin, Dox, bonjour à toi.
Salut.
Alors du collectif, là c'est un collectif Rebeldia.
Ouais.
Et qui est à l'organisation, aux commandes, d'une certaine manière, aux manettes de la soirée du 7 février dont tu vas nous dire quelques mots tout de suite.
Ouais, exactement. Donc le collectif Rebeldia a été formé en lien avec les événements qui se déroulent au Chili depuis le mois d'octobre. Il a été organisé pour préparer une soirée qui a eu lieu au mois de novembre, qui a très bien réussi dans le but de collecter des fonds pour appuyer des gens qui bougent au Chili. Et puis, comme la situation dure et perdure, on s'est dit qu'il fallait continuer, que comme le système avait bien fonctionné, on allait pouvoir appuyer des autres gens et des autres groupes sur place. Et c'est là-dessus qu'on a lancé cette soirée qui aura lieu donc vendredi prochain, le 7 février, à l'espace autogéré à Lausanne.
Très bien. Rue César, route 30 à Lausanne. On y va en train depuis Genève, par exemple. Et ensuite, je crois qu'un arrêt de M2, un ou deux arrêts de métro. Et puis, c'est à 30 mètres de l'arrêt de métro. Hein, c'est ça.
Ouais, quelque chose comme ça, avec un petit bout d'ascenseur.
Ouais, absolument. Voudrais-tu peut-être d'ores et déjà nous annoncer un petit peu la teneur, la substance, le programme de cette soirée? En quelques mots, pas besoin de tout préciser, mais...
Alors... la soirée va débuter du côté des 19h, où on va ouvrir les portes, mais un vendredi à 19h, on s'attend à ce qu'il y ait plutôt les gens du staff pour l'organisation, où on va mettre en place les dernières choses et on va manger ensemble. Donc c'est une bouffe qui est ouverte, les gens qui voudront arriver à ce moment-là pourront y participer. Il y aura un plat chilien, poroto con rienda, végétarien. Tout est à prix libre, donc tant le repas que l'entrée à la soirée. Ensuite, dans la soirée, on va pouvoir trouver une exposition. On aura une petite flash mob qui est liée aux manifestations du Chili, qui est faite d'ailleurs par les copains de Genève, qui vont se déplacer pour l'occasion.
Tiens.
Et puis ensuite, on va partir dans une soirée musicale où on aura du hip-hop avec un open mic. Ça va commencer du côté des 22h. Donc la soirée, la partie festive, commence vers 22h. Et ensuite, différents rappeurs et DJ pour finir la soirée avec DJ Oka, dont je pense que Marcela va parler mieux que moi. Vu qu'elle la connaît.
Et l'intitulé, c'est Réaction solidaire. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. il y a une action, il y a de la solidarité opérationnelle qui a cours, et notamment du soutien, et notamment le Centro Arte Alameda à Santiago du Chili.
Ouais, donc je pense que plus tard, on va faire peut-être pour les auditeurs un petit résumé de la situation, de pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, après avoir pensé que le Chili était une oasis sur son continent.
Ouais.
Et puis ensuite, je vais dire quelques mots du Centro Arte Alameda, donc qui est un centre autogéré, qui a commencé par un cinéma, et puis qui ensuite s'est ouvert, a ouvert différents espaces pour des ateliers, des expositions et un certain nombre d'activités, de réunions, etc. Enfin, on est ici dans un espace autogéré. Je viens d'un espace autogéré, enfin, on voit le genre
d'activités
qu'on peut trouver dans ce genre de lieu.
Absolument. Alors, Waliwen, dis-nous, cette plateforme, c'est bien ça, une plateforme ou non? Quel est le terme que tu as utilisé pour
Moi, ce que j'ai utilisé comme Red Mapuche Suisse, c'est une RED. Une RED, ça veut dire RED d'information. On diffuse, on partage l'information pour informer un peu le public de ce qui se passe, de la situation du Chili. Moi, je suis en fait la dernière pièce ajoutée, parce que pour la soirée du 7 février, il y aura évidemment de la musique, il y aura évidemment de la nourriture, mais il y aura aussi une expo. Une expo sur les Mapuches, parce que ce qui se passe donc au Chili, ce soulèvement populaire, c'est quelque chose de tellement fort. Et évidemment, on doit s'unir. C'est pour ça que Doc, qui est avec moi, qui est de Saint-Pré, Marcella de Genève, et moi aussi de Genève, et c'est en fait, on fonctionne, on peut dire, en coordination.
Donc on part plus dans le réseau, comme tu as dit.
On part plus sur un réseau, et l'expo des Mapuches, c'est pour visibiliser un peu leur lutte, leur situation, et aussi présenter le drapeau, le fameux drapeau, parce que dans tout au Chili, avec tous les événements qui se sont passés, dans toutes les protestations chiliennes, on a vu ce fameux drapeau qui, en plus du drapeau chilien, qui est le drapeau mapuche. Pourquoi est-ce qu'il est là? Alors voilà. Alors je suis la dernière pièce de l'expo du 7. Mmh. Et Doc, comment ça s'est passé qu'on fonctionne en coordination? C'est que Rebellia justement a fait une soirée l'année passée où il y a eu des groupes, où il y a eu des DJ, une soirée super et magnifique, d'où les fonds récoltés ont été envoyés après par la suite au Chili. Et comme on fonctionne en coordination, parce que comme au Chili, ils s'unissent, la protestation, ce qui se passe, ce soulèvement populaire est tellement fort qu'on doit ici, nous, à l'extérieur, chiliens et non-chiliens, et mapuche et toute nationalité confondue, s'unir à ce qui se passe. Je vais laisser la parole à Doc, qui a fait une super, en fait, présentation en ce qui concerne la situation du Chili.
Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Donc, au mois d'octobre, il y a eu des premières manifestations. Effectivement, comme on a pu le lire dans la presse, il y a eu une augmentation du prix du métro, qui, vu d'ici, n'a pas l'air bien impressionnante. 30 pesos, bof, c'est quelque chose comme 10 centimes. Sauf que c'est la huitième depuis 2007, et puis que, quand on les additionne, le prix du métro est monté d'à peu près de 90%. La situation générale, c'est que les militaires, au moment où ils ont pris le pouvoir, ont commencé par une répression sanglante et à exécuter, faire disparaître ou exiler les opposants. Donc c'était les gens qui soutenaient le gouvernement de gauche de Salvador Allende au début des années 70. Donc ils ont utilisé leurs premières années, les 5 à 7 premières années, à une répression massive. Et puis ensuite, ils ont mis en place un système politique et un système économique qui a mis en pratique les théories de l'université de Chicago, donc de Milton Friedman. Mmh.
Des économistes. Ultralibéraux.
Je ne sais pas si Milton Friedman lui-même s'est rendu au Chili, mais il y a envoyé ses sbires, qu'on a appelés les Chicago Boys. Et eux, en fait, ont profité d'une situation locale, donc avec une dictature fasciste, plus de syndicats, plus de partis politiques. Enfin, c'était open bar, en fait, pour lancer une première expérience de néolibéralisme, voire d'ultralibéralisme. Et c'est dans cette situation que, l'année passée, tout le monde vivait encore. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout a été privatisé. Quand je dis tout, ça commence par l'éducation, ça continue par la santé, ça se poursuit avec la gestion de l'eau dont on discutait tout à l'heure, les transports publics, tout, absolument tout, les assurances, les retraites, etc., etc. Et en fait, ce qui se passe, bah, c'est, d'ailleurs, on devrait y penser pour chez nous, on a aussi des tentations de privatisation, c'est que le résultat est catastrophique au niveau social pour les gens. Donc au Chili, on se retrouve avec un pays qui a des résultats macroéconomiques impressionnants, qui a bien profité des hauts taux du cuivre pendant 10 à 15 ans, mais qui n'a pas réussi à distribuer la richesse. Donc la fameuse théorie du ruissellement n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si elle a déjà fonctionné,
voilà,
mais
c'est ça.
Au Chili,
en tout cas pas.
Catastrophique. Donc on se retrouve avec une population dont la pauvreté ne diminue pas, donc elle oscille entre 25 et 30% depuis 40 ans. On se retrouve avec des gens qui étudient, qui vont dans des universités. Donc le Chili, il n'y a pas un système comme on peut le trouver en Suisse, où quand on ne fait pas des études académiques, on arrive très bien à réussir sa vie en passant par l'apprentissage. Donc tout le monde étudie dans des universités ou des écoles techniques qui ont à peu près le même niveau. Mais sauf pour les familles très aisées, les gens, quand ils sortent, qu'ils ont réussi leur bachelor ou je ne sais pas comment s'appelle le diplôme qu'ils ont à la fin de leur cursus, se retrouvent préparés à payer leurs études, leurs dettes pendant les, en tout cas, 20 ans qui suivent. Oui. Donc on a des professionnels qui vont continuer à payer mensuellement jusqu'à 44, 45, 46 ans.
Ok.
Le problème aussi d'une éducation privée, intégralement privée, donc on n'est pas dans un cas comme ici où je sais pas, moi, 90% des gens vont à l'école publique et puis pour un certain nombre de raisons, un 10% des gens vont étudier en école privée. Là-bas, c'est tout le monde. Et dans ce tout le monde, il y a toute une offre d'école qui est à disposition avec des prix qui diffèrent. Et donc, les familles envoient leurs enfants dans les meilleures écoles qu'elles peuvent se payer. Donc, le problème, c'est que l'éducation n'est pas de la même qualité si on est riche ou pauvre. Et puis, il y a un problème qui est assez impressionnant au Chili, c'est le classisme, en fait. Les classes sociales sont assez imperméables. C'est très difficile de passer d'une classe à l'autre. Les gens, quand on commence à parler, au milieu de la première phrase, savent à peu près de quel coin on vient et de quelle classe sociale. Et on est immédiatement catalogué et on a de la peine à accepter les gens des autres classes. Ça vaut pour les riches qui veulent pas entendre parler des pauvres, qui de toute façon sont pauvres parce qu'ils sont des fainéants. Et puis ça va aussi dans l'autre sens. Les pauvres n'aiment pas les riches. Bon, c'est plus facile à comprendre, mais toujours est-il que c'est difficile de, je sais pas moi, un jeune homme qui tomberait amoureux d'une fille qu'il a connue, qui viendrait du mauvais quartier, c'est difficile de la ramener dans sa famille. Enfin, je pense que ça va
tout
être très difficile à changer. Peu importe ce qui pourra se passer dans les prochains mois, ça va rester.
Donc tout est plus tendu à l'intérieur de la société civile au Chili. Ces mobilisations de masques auxquelles on a pu assister avec plus d'un million de personnes dans la rue, y a-t-il eu là tout de même des mouvements transversaux qui ont surgi ? Est-ce qu'à ce moment-là, dans la rue, on s'est retrouvé avec la classe moyenne, les classes populaires, avec des alliances qui peut-être se sont produites, ou en tout cas une empathie et puis une compréhension de la situation d'autrui qui fasse que l'on avance peut-être de concert ?
Eh ben moi j'ai envie de dire oui, bien sûr, oui. Ce qui s'est passé, c'est que au Chili, tout ce mouvement, ce soulèvement populaire a commencé en mi-octobre. Ça a commencé justement, comme il l'a dit, avec cette hausse sur les transports publics, où là c'était justement des adolescents. On dit des adolescents pour dire ce qui correspondra à Genève, des collégiens. Les collégiens ont été les premiers à se manifester. À se manifester librement et à propager ce lema, comme on dit, ce slogan, Evadir no pagar otra forma de luchar. Quand ça a été lancé, personne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. Et ce qui était beau à voir, c'était de voir tous ces jeunes collégiens sauter justement, parce que les métros à Santiago du Chili, ça ressemble plutôt au métro comme à Paris, justement où il faut prendre un petit ticket, passer le petit ticket pour pouvoir que la porte s'ouvre, pour pouvoir passer, pour pouvoir accéder au transport. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sauté par-dessus. C'était tout simplement fort. Alors, c'est clair que 30 pesos, c'est presque rien. Mais en fait, c'était la petite goutte d'eau qui a fait déborder. Qui a fait déborder le vase, où là, finalement, le mouvement, ce qui est fort, en fait, parce que ça a été filmé, il y avait des WhatsApp, il y avait des filmations, justement. Maintenant, on est dans un air où la communication, elle passe tellement plus facilement qu'il y a 40 ans en arrière. Les petits jeunes, non seulement ils ont sauté par-dessus, mais ils ont invité aussi la population chilienne à passer par-dessus et ne pas payer cette taxe, en fait, finalement, cette petite taxe, finalement, qui était la petite goutte, pour pouvoir accéder au transport. La répression, elle est venue. La répression chilienne est venue tout de suite pour dire, ben voilà, pour empêcher justement, comme ils disent eux, cette taxe subversive. Mais en fait, ça a déjà écoulé. Ça a déjà écoulé. La population a y participé. Et finalement, ça a été l'engrenage qui fait que actuellement le Chili est là où ce qu'il est maintenant. Parce que cette privatisation, c'est une privatisation, comme ils le disent certains, c'est pas 30 pesos, mais c'est 30 ans finalement. Parce qu'en attendant, les Chiliens, ils ont bavé de la privatisation. La privatisation, elle n'est pas née avec le gouvernement qu'on croit actuel, le gouvernement Piñera, mais elle est née déjà d'avant. Ça a été une continuation finalement qui était insupportable. Et là, toute la population s'y est mis. Alors quand on dit oui, il y a d'autres groupements qui se sont rapprochés, ben, je veux dire oui, ça a permis d'unifier aussi en ce qui concerne la lutte mapuche, parce que dans toutes les protestations sociales chiliennes actuelles, on voit ce fameux drapeau. Il n'y a pas seulement le drapeau chilien, et d'ailleurs ce que je veux dire, c'est que le drapeau chilien a été aussi représenté tout en noir, pour montrer aussi ce qui en était de la répression.
Voudrais-tu nous en dire quelques mots de cette répression féroce qui a cours, parce qu'on a entendu et on a vu des images incroyables, on peut parler d'assassinat tout simplement.
Il y a eu, et c'est triste, il y a eu plein d'assassinats en ce qui concerne plein de violations. Il y a eu la force armée chilienne a tiré sur la population, les gaz, les guanacos, il y a eu les œils. Ils ont tiré les œils crevés, quoi, là, les œils crevés. Donc, c'est tellement fort. Et c'est malheureux ce qui se passe. Mais ça a permis, justement, aussi, en ce qui concerne les Mapuches, d'avoir une lumière aussi sur leur lutte. Parce que les Mapuches, en dehors de ce qui s'est passé, ça faisait déjà depuis longtemps qu'ils protestaient. Mais malheureusement, c'est que leur lutte, elle était isolée. Leur lutte était isolée. Les médias ont un rôle super important, et encore maintenant, parce qu'ils présentaient les Mapuches comme des terroristes. Donc leur lutte était complètement isolée. Mais avec tout ce mouvement, leur lutte, elle a été mise en lumière. Elles-mêmes, les Chiliens, ont adopté et ont repris cet emblème de drapeau pour montrer, ben voilà, et les Mapuches, et oui, et voilà pourquoi, parce que au Chili, le Chili actuel, on vit sous une constitution pinochettiste.
Oui.
Et ça, c'est la réalité.
Arrêtons-nous quelques instants sur le mot Mapuche. Est-ce un peuple? Est-ce une nation? On sait qu'elle est à cheval sur le Chili et un petit peu sur l'Argentine. C'est l'Araucanía, si on veut. Voudrais-tu nous dire quelques mots pour que les personnes qui nous écoutent puissent prendre la mesure de cette problématique-là? Un peuple qui était là bien avant la constitution du Chili, et dont les territoires sont désormais militarisés, confisqués depuis un moment, au dessein d'en prélever, et bien d'en faire de l'extractivisme, entre autres, et que à côté de cela, effectivement, c'est une population qui subit non seulement cette répression, mais en plus tout ce regard que les masses médias essayent d'installer en parlant de terrorisme, d'incendiaire, etc. Vous voudriez nous dire quelques mots à ce propos?
Alors oui, alors pour moi, le peuple Mapuche, c'est une nation dans le sens que ils ont un passé historique, ils ont une langue propre à eux, le Mapusungun, ils ont un drapeau, ils ont une histoire qui est là, qui est forte. Malheureusement, dans l'état actuel, le Chili, qui est donc le pays dominant où il y est, n'ont pas n'ont pas respecté en fait le traité qu'il y avait avec les Mapuches. Ça veut dire que les Mapuches non seulement ont subi la répression des Espagnols, mais après par la suite, et c'est ce qui est fort en fait, c'est qu'en fait les Mapuches ont réussi justement à avoir des traités avec la couronne espagnole. Le génocide le plus grand qui s'est fait avec les Mapuches n'ont pas été avec les Espagnols, mais a été avec le peuple chilien. Enfin, le peuple chilien, je veux dire avec le Chili actuellement constitué. Maintenant, ce qui est fort, c'est que moi, je le dirais comme nation, mais maintenant, pour que ça soit une nation, il faut que ça soit reconnu comme nation. Et en tant que tel, ça ne l'est pas. Mais dans l'actualité du moment, justement, avec tout ce qui se passe au Chili, quand on pose l'actualité, quand on pose la question que pensent les Mapuches de ce qui se passe, ça veut dire que oui, les Mapuches s'unissent complètement à la lutte de ce qui se passe avec le peuple chilien, parce que le peuple chilien se retrouve finalement en même condition que les Mapuches, se retrouvent criminalisés. Ils se trouvent pointés du doigt, ils se trouvent complètement sensibles, plus que sensibles, mais vulnérables à tout ce qui se passe, parce que finalement, ils n'ont aucun apport. Je veux dire, on parle des médias, on diffuse de ce qui se passe au Chili, mais qu'est-ce qu'on est de la pression internationale de l'extérieur? Qu'est-ce qu'on en est là? Les Chiliens sont complètement vulnérables. On a justement une haut commissaire, qui est chilienne des droits de l'homme, qui est Michelle Bachelet, voilà, qui est chilienne, ouais. Mais qu'est-ce qu'elle en fait? Les Chiliens se trouvent complètement à l'état de ce que se trouvent les Mapuches. Alors oui, il y a une union entre ce qui est les Chiliens, les Mapuches, c'est pas seulement le Chili, mais c'est l'Argentine, c'est aussi Chili et Argentine. Je veux dire, cette frontière, c'est simplement une frontière, une frontière dessinée, mais c'est le même peuple qui est complètement uni. Alors oui, c'est douloureux, c'est dur, mais contrairement aux Chiliens, parce que je veux dire, c'est bête à dire, mais les Mapuches, ils ont l'habitude parce qu'ils ont suivi longtemps cette répression. C'est pas qu'ils aiment ça, mais c'est vraiment qu'ils connaissent sur le terrain. Par contre, en ce qui concerne le Chili, c'est extrêmement dur parce que c'est vraiment une claque. Ce qui se passe. Et puis d'ailleurs, il y a maintenant des morts. Il y a une quantité de morts incroyables qui se sont faites pour cette manifestation au Chili. Je parle du Chili, Santiago en général, mais au retour. Et c'est ça qui fait qu'on est là, qu'on doit s'unir. Parce qu'en fait, cette violation, elle nous touche à tous. Quand quelqu'un meurt pour défendre ses idéaux, ce qui s'est passé aussi pour les Mapuches, c'est quelque chose qui nous unit complètement.
Ça. Oui. Voudrais-tu peut-être juste encore nous dire la zone géographique de population Mapuche? Est-ce que ça touche plutôt le sud du pays? Est-ce que c'est une population qui est également présente dans les villes, ou ce n'en est pas le cas?
Les Mapuches sont situés au sud du Chili, mais maintenant avec la migration et puis ce qui est actuel, les Mapuches se retrouvent aussi à Santiago. Il y en a partout. Il y en a même ici en Suisse, moi j'ai envie de dire, il y en a même ici en Suisse, parce que moi je suis là aussi.
J'en connais une.
Alors il y en a même ici en Suisse, mais il y en a partout. Et puis, ce que nous on a fait, c'était de nous unir et puis d'essayer de nous coordonner un maximum. Et c'est ça, la coordination.
Ouais.
Et c'est pour ça que là, on est là avec, là je suis là avec Rebeldía et avec les autres, parce que oui, ce qui se passe au Chili, maintenant, cette répression, cette constitution pinochétiste, c'est pas seulement les Mapuches qui la vivent, maintenant c'est les Chiliens qui le vivent au cœur de leur chair.
Tout à fait.
Comme les Mapuches.
Alors Doc, justement, ces foyers de résistance sont-ils plus présents en ville, dans des milieux urbains, ou est-ce qu'ils émergent à la campagne également? Est-ce qu'ils émergent partout? Et est-ce que cette voix Mapuche, eh bien, contribue durablement à ce que le mouvement, eh bien, se nourrisse et qu'il ne s'essouffle pas?
Alors la contestation, comme la population, se concentre principalement en ville. Le Chili, c'est un grand pays, vous voyez la forme, 4200 km de long, 11000 km de côte, mais c'est plein de vide.
Et de montagnes. De route,
ouais. Au Chili, on ne parle pas d'est et ouest, c'est montagne et mer, et sinon nord au sud. Donc il y a plein de vide, il y a évidemment bien sûr aussi des villages, donc... J'imagine que les protestations sont les mêmes dans les villages, mais dans les villages, on connaît l'agent de police, on connaît le facteur, enfin, on connaît le prof.
comme dans tous les villages du monde. Donc je pense qu'il peut y avoir eu des mouvements qui se sont passés. Évidemment, c'est pas avec la même intensité qu'on peut trouver comme dans une ville en particulier comme Santiago. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais Santiago, c'est à peu près la moitié de la population du Chili. Donc le Chili, c'est 18 à 19 millions et je crois qu'il y a 8 millions d'habitants sur l'agglomération de Santiago.
D'accord.
Après, il y a encore quelques grandes villes. Donc Valparaíso, qui est le port historique, qui se trouve à 120 km de Santiago. Il y a Concepción, qui est aussi une grande ville, qui est à peu près jumelée avec Talcahuano, qui est un autre grand port au sud. Donc ça doit faire une population qui atteint 1,5 million à peu près, Marce.
Oui,
quelque chose comme ça, à peu près 1,5 million d'habitants. Mais ensuite, les villes typiquement au nord, c'est des villes qui ont quelques centaines de milliers d'habitants les plus grandes. C'est des régions qui sont désertiques, donc il y a de l'activité minière, il y a un peu de pêche sur la côte, mais tout le pays, le pays est vide en fait.
D'accord.
Et puis les villes, elles sont séparées de 2 à 300 kilomètres les unes des autres, donc c'est des endroits où il y a moins d'intensité. Rappelle-moi ta question.
Donc c'était sur est-ce que c'était les foyers de résistance étaient-ils en ville ou sur tout le territoire, et est-ce que la population mapuche du coup est je vais utiliser un horrible mot, mais une valeur ajoutée à cette résistance en la nourrissant et en lui permettant de ne pas s'essouffler?
C'est une question assez difficile vu l'histoire. Bah comme le disait Wariwe, moi j'aurais tendance à dire que les luttes mapuche elles sont précurseurs, en fait, au niveau de l'organisation. Maintenant, moi, j'habitais au Chili dans les années 90, et il y a toujours eu des mouvements de résistance. Donc, à l'époque où j'étais, c'était encore pour réclamer des informations sur les détenus disparus de la dictature. Mais il y avait déjà des mouvements pour s'opposer aux privatisations. Donc, il y a eu la révolution des pingüinos. On les appelle pingüinos, c'est les gamins qui vont à l'école, les collégiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont des uniformes et puis voilà. Bon, ben, les Chiliens, il faut dire qu'ils aiment beaucoup les jeux de mots, ils aiment bien coller des surnoms aux gens. Il y a le mono, el gato. Enfin, ils ont un langage qui est assez imagé.
Très bien.
Donc quand j'y étais, effectivement, il y avait déjà des choses. On n'était pas qualifié à l'époque de terroriste, parce que ça c'est venu avec la décennie des années 2000. Mais on était des subversifs. Et pour la grande majorité de la population, les gens qui allaient à ces manifestations à l'époque, n'étaient pas très fréquentables, hein, il faut le dire. On n'avait pas bien compris toute cette beauté économique qui allait nous arriver et nous amener à un futur radieux. Maintenant, il y a une évolution aussi. Et puis effectivement, quand on se retrouve, tu disais 1 million, en fait c'est un peu plus d'1 million à Santiago, donc la plus grosse manifestation. Mais ce jour-là, il y a des gens qui ont bougé dans toutes les villes du Chili. Et en fait, bon, c'est toujours difficile, on va dire, d'après les organisateurs. on était à plus de 2 millions, mais ouais. C'est à peu près 10% de la population totale qui était dans la rue à ce moment-là.
Voilà, c'est un chiffre quand même hallucinant. Et on a vu des images qui ont touché.
Une marée humaine.
Le regard des uns sur les autres a-t-il changé? Le regard des Chiliens sur les Chiliens, en guillemets, sur les Mapuche, et inversement, est-ce que les lignes bougent à l'occasion justement de ces émeutes, de cette contestation, de cette résistance?
Je pense et j'espère que oui. Les manifestations dans les années 90, il n'y avait pas de drapeau Mapuche. Bon. Wariwe m'a expliqué qu'en fait, le drapeau qui est utilisé est assez récent. Il date de 1992.
Voilà, exactement, de 1992. Donc effectivement, oui, avant, on ne pouvait pas voir ce drapeau. Le drapeau donc bleu qu'on voit, on ne pouvait pas le voir avant parce qu'il a été créé en 1992, justement, pour le cadre du 500e. Le 500e qui était donc la découverte de l'Amérique. Et pour le peuple mapuche, c'était les 500 ans de résistance. Et c'est là où est sorti ce drapeau. Ce drapeau, oui, il a une histoire, il a une belle histoire, parce qu'en fait, il n'a pas pu sortir pour le 12 octobre, parce que 12 octobre, c'est la date qui a été prise pour la fameuse découverte de Christophe Colomb en Espagne. Mais il a été montré au jour à peu près entre le 6 octobre. Et là, quand les Mapuches ont présenté ce drapeau, ils l'ont présenté justement pour pouvoir unifier et se distinguer de ce qui se passait de la population chilienne. Parce qu'au Chili, on est tous chiliens. Il y a des Chiliens, c'est clair. Mais il y a des Mapuches aussi. Il y a une population indigène qui est là et qui n'est pas reconnue dans la constitution chilienne. Les peuples indigènes ne sont pas reconnus. On est tous Chiliens. Et après, oui, il y a des Mapuches. Oui, il y a, par exemple, des Diaguitas. Mais on est tous Chiliens. Et là, les Mapuches ont présenté leur drapeau pour montrer on n'est pas une ethnie. Déjà, non, ce mot ethnie n'est pas approprié, mais on est une nation. Pourquoi ? Parce qu'on a un passé historique, on a une langue, on a notre langue propre à nous, on a un territoire, on a des traités qui montrent et qui délimitent bien les frontières, et oui, on est là. Alors, quand ils ont sorti ce drapeau au grand jour, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, là, c'était ma grande surprise, parce que moi, depuis l'extérieur, qu'est-ce que j'ai observé ? Ce qui s'est passé, c'est que 144 Mapuches, quand ils ont défilé avec leur drapeau, ont été emprisonnés, et là, on leur appliquait la loi antiterroriste, qui était donc cette loi héritée par la dictature. Mmh. Et c'est là. Et là, quand on se rejoint, parce que je dis oui, les peuples mapuchés se rejoignent complètement avec la lutte chilienne, on comprend exactement ce qui se passe, parce que les Chiliens aussi, ils doivent se libérer de cette loi, en fait, parce qu'ils demandent le peuple, par une nouvelle constitution. Donc, oui, on est unis, et bien sûr, on comprend exactement ce qui se passe, parce que malheureusement, ce qui se passe au Chili, contrairement à l'extérieur, c'est que l'information est manipulée. Les journaux ne diffusent pas, ne disent pas ce qui est, mais disent ce qu'en fait le gouvernement du moment a envie que ça se sache. Ça veut dire quoi ? On a envie de dire que les Mapuches sont des terroristes, donc on fait croire à la population qu'ils sont terroristes.
Voudrais-tu nous décrire le drapeau Mapuche, justement ? A-t-il un nom ? Et pourquoi ces couleurs-là plutôt qu'une autre ? Voilà, y a-t-il quelques petites singularités comme ça que tu aimerais nous dire ?
Alors, le drapeau Mapuche, ça s'est fait par un appel. Un appel s'est fait justement des Mapuches de l'époque. On parle donc de 1992. En 1992, il n'y avait pas les réseaux qu'il y a maintenant. Donc, tout se faisait par téléphone pour ceux qui avaient des téléphones, parce que dans les communautés du Sud, il y en a beaucoup qui n'ont pas ce moyen de communication. Donc, ça se faisait qu'une personne voyageait, partait carrément visiter les communautés pour leur demander ce projet de drapeau. Mais ce projet de drapeau était important et urgent qui se faisait parce que, justement, ça a été les premiers à en baver en ce qui concerne cette constitution. Pourquoi ? Parce que les Mapuches, depuis toujours, ont réclament leur territoire qui leur convient de fait, et pas qu'on leur réduise leur territoire à ce qu'il en est maintenant. Alors, oui, le drapeau a toute une symbolise. Alors, ils ont présenté ce drapeau, ça a été choisi, les couleurs sont là, on a le coultrune au milieu, on a le bleu en haut, on a le jaune et le vert. Alors, le coultrune au milieu, ça correspond justement à l'instrument sacré que portent les machis, les guides spirituels, qui représente donc, je veux dire en gros, parce que c'est extrêmement long d'expliquer la cosmovision. Alors là, ce sera peut-être un autre thématique,
oui,
pour expliquer la cosmovision, parce
sujet.
Que c'est une cosmovision. Donc il y a le coultrune au milieu qui représente, en gros, on va dire les quatre saisons, les quatre orientations, ça veut dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et ce symbole de rond, c'est un symbole qu'on trouve dans tout l'Abiyala, ce que j'ai envie de dire. Abiyala, c'est pour nommer le continent américain, parce qu'on parle pas d'Amérique latine, là on parle du continent américain, du sud au nord, pour ne pas exclure les indigènes du nord. On retrouve ce fameux rond avec les quatre divisés par une espèce de croix au milieu, et ça, ce symbole que vous trouverez dans toutes les nations indigènes, à peu près, voilà. On a le vert qui représente la nature, la région riche du Chili, ça veut dire la région forestale. Et le rouge qui représente le sang versé par la colonisation. Et puis on a aussi le jaune qui est là pour le bleu le bleu qui représente la cosmovision, le lac, la vie, le bleu. Et puis tout autour qui est l'inimine. Alors oui, ce drapeau, Ça fait chaud au corps de voir que dans les manifestations populaires du Chili, on le sort et là, parce que finalement, ce drapeau, ça représente la rébellion, l'insurrection, et puis l'opposition nette. Ça veut dire que les Mapuches, on les a vus, finalement, on ne croit pas qu'ils sont, et ils ne sont pas terroristes. Les Mapuches ont été les premiers à pointer l'État chilien pour leur dire, voilà, l'État chilien nous criminalise. Et puis, ben non, les Mapuches ne sont pas des criminels. Et ça, c'est beau parce que, je veux dire, c'est beau, c'est manière de dire. Parce qu'actuellement, qu'est-ce que fait la répression chilienne sur le peuple chilien? Ils leur tirent dessus. Et c'est exactement la même chose qu'ils faisaient avec les Mapuches. Alors, c'est ça pour dire, voilà, le drapeau, il est là, le Chili est là et les Mapuches, c'est là. Ouais. Et ça, c'est un message fort parce qu'on parle à ce moment-là d'un Chili plurinational, d'un Chili qu'on reconnaît, qu'on voit qu'il y a pas seulement ce modèle que nous impose l'État, mais aussi ce modèle extérieur de ce que voient, de ce que ressentent les gens. Les gens ressentent un peu, ressentent cette culture indigène qui est là. Ils la voient, ils se disent, ben non.
Pour plus loin, une nouvelle constitution et un État plurinational, ça ferait partie des solutions que vous envisageriez comme ça dans vos esprits, dans vos cœurs?
Personnellement, je pourrais. Moi, j'ai une position dessus, mais je pourrais pas dire que c'est l'idée que représentent les Mapuches. Parce qu'il y a aussi des Mapuches qui sont, ce que je veux dire aussi pour en ce qui concerne le drapeau, qui sont pour un autogouvernement. Il y en a qui se disent autogouvernement, qui se disent justement se séparer de l'État chilien. Il y a une tendance qui est...
Ça regrouperait les Mapuches du Chili et de l'Argentine?
Ça regrouperait les Mapuches du Chili et d'Argentine et ceux qui ont fondé ce drapeau. Les fondateurs de ce drapeau, les Mapuches qui ont fondé ce drapeau, ils sont pour une libre autodétermination qui les sépare de l'État chilien. Pourquoi? Parce qu'ils disent, en fait, l'État chilien, non. Non, on n'en veut pas de cet État chilien. On veut notre propre État pour pouvoir aussi gérer nos ressources et être autonome dans notre territoire.
Et ça, ce serait l'Araucanie, ce serait ça?
Ça sera l'Araucanie, la région du Sud. Et il y a une autre tendance qui dit aussi, ben, le plurinational, pourquoi pas, tous dans la main, pourquoi pas, le Chili, voilà. Maintenant, c'est une décision qui appartient justement aux Mapuches là-bas de définir et aux Chiliens aussi de voir de ce qui se passe, parce qu'il y a aussi, les Chiliens à prendre en considération de ce qui se passe là-bas.
Absolument.
Le reconnaître ou pas.
Ouais. Marcel, alors nous allons parler effectivement aussi de la déambulation, comment se rendre le 7 février prochain, donc à l'espace autogéré à Lausanne. Donc c'est à l'avenue César Route 30, on l'a dit, à partir, donc l'ouverture c'est 19h. Porte 19h, c'est ça?
Ouais, on ouvre les portes à 19h.
Avec le repas.
On mange à 8h.
Et puis après.
Et la musique, la soirée, la fête commence du côté des 22h avec les rappeurs.
L'expo est accessible à tout moment.
L'expo est accessible à tout moment, à partir de toute heure. Il y aura une expo justement présentée, Expo Mapuche, Red Mapuche Suisse, présentée où on expliquera un peu le drapeau, les symboles et puis des photos et imagées. Oui.
Très bien, très bien. Alors voilà, il y a une manière de s'y rendre auquel oui. Tu as pensé, Marcella, et dont tu vas nous parler tout de suite. Mais avant cela, j'aurais voulu que tu nous dises un petit peu, parce que dans cette insurrection, dans ce que l'on voit à la télévision, eh bien, on voit également une résistance qui par moments se danse au travers du Casero Lasso, avec ce texte et cette chorégraphie qui, si je ne me trompe, est issue de Anna Tijoux.
Oui, texte est d'Anna Tijoux. Oui,
voilà,
tout à fait.
Le texte d'Anna Tijoux, dont tu vas nous dire quelques mots, parce qu'on l'a vu à quelques reprises ici à Genève et dans les manifestations également, et c'est quelque chose qui, comment dire, amène du sens.
Tout à fait.
Veut dire quelque chose, ça a du sens.
Alors oui, donc même l'association Missol s'est créée, juste pour faire un petit rappel, suite au festival Missol qui a eu lieu en novembre-décembre. On a réagi par ce biais-là en créant un événement culturel justement pour répondre à ce qui est en train de se passer au Chili. Moi je voulais juste revenir sur un point qu'ont commenté mes camarades. Il y a quelque chose d'important par rapport à ces manifestations, c'est qu'il n'y a plus de peur. Le fait que ce soit ces gamins qui ont pris le pouvoir finalement de se manifester, ils ont permis ils ont permis à toute cette population qui depuis plus de 30 ans vivait dans la peur due justement à la dictature de ne plus avoir peur. Ce qui est magnifique aujourd'hui dans ces manifestations qui ont eu lieu, alors magnifique, on se comprend, hein, c'est pas du tout dans la répression, mais c'est de voir que parmi les gens qui manifestent, on a des enfants. Bon, ça c'est pas le top parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont été aussi violentés, ce qui est juste inacceptable. Des jeunes, des adultes, des seniors, tous ensemble. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces manifestations, c'est de voir qu'aujourd'hui, ceux qui sont, qu'on les appelle la première ligne, ce sont des gamins qui viennent du CENAM et qui est une forme de centre de jeunes qui est plus
sorte
des
d'orphelinat,
centres,
mais ouais,
mais
ça
de centres de
à des
torture,
centres,
quoi.
C'est des centres de détention. En fait.
C'est des centres de détention pour des jeunes qui ne le méritent pas, simplement parce qu'on peut pas les laisser dans leur famille, parce qu'on croit que les familles, enfin, un père alcoolique, une mère, enfin, on se permet des jugements et on retire ces enfants des familles pour les mettre dans ces centres où beaucoup d'entre eux, malheureusement, sont violentés, violés également. Donc, on crée des petits délinquants. Ben, ces petits délinquants, aujourd'hui, ce sont les protecteurs de toutes ces manifestations. Donc, il y a toute une organisation qui est faite au niveau des manifestations avec plusieurs lignes. Et cette première ligne est super importante parce que ces gamins n'ont peur de rien. Ils y vont, ils sont là pour protéger tout le reste de la population. C'est super fort. Donc, nous, ça nous a inspirés. Ici à Genève, pour justement, avec ce texte de cette chanson d'El Cacerolazo d'Anna Tijoux, qui parle des manifestations, qui parle aussi des répressions, des personnes qui ont été aussi violentées, tuées, etc. On a créé une toute petite chorégraphie, elle dure une minute et quelques, mais elle représente, elle, voilà, les pas disent cette répression qui est vécue lors de ces manifestations et comment on se défend. Et les personnes qui se défendent, bah, y a de tout. Il y a de tous les âges et c'est génial. Et nous, dans notre groupe, justement, Alors malheureusement, on n'a toujours pas de garçons. On espère que peut-être le 7 février, certains oseront danser avec nous. Mais
j'ai mal au dos.
Ah voilà.
Moi j'ai appris la chorégraphie.
Oui, c'est bien, c'est bien.
J'ai déjà appris.
Mais c'est vrai que c'est une chorégraphie qui devrait être mixte parce qu'elle est représentative des manifs. Et ce qui est chouette dans notre groupe, c'est qu'on a toutes les générations qui sont représentées. Donc quand vraiment tout le monde peut participer, on a des enfants de 7-8 ans qui dansent avec des grand-mères de 65-69 ans qui sont présentes. Et c'est génial. Donc on l'a proposé pour le 7 février, donc c'est cool, on va faire cette petite flash mob, et elle est vraiment représentative des manifestations, et c'est super important. Et on l'a modifiée, enfin, en fait, nous, on l'a dansée comme on le sentait, et ce sont le public qui est venu nous dire, vous représentez la première ligne. Ça veut dire qu'on représente ces guerriers qui y vont, qui protègent, qui ont peur de rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une danse qu'on est tout à fait prête à... Je dis prête parce qu'on n'est que des nanas, mais tout à fait prête à enseigner, à transmettre à tout groupe qui souhaite justement manifester. Ça correspond. D'ailleurs, on a participé avec pour la grève du climat. On a participé à une marche de soutien à l'Amérique latine, entre autres. Enfin, différents peuples qui sont en répression. Et on va continuer à participer.
Donc on peut lancer un appel des personnes, femmes, hommes, etc., qui souhaiteraient se joindre.
Avec grand plaisir, les bienvenus. Tout à fait.
Très bien. Alors, sur le volet logistique.
Le
volet logistique, comment va-t-il se passer? Et voilà, tu voulais ajouter quelque chose.
Alors justement, pour nous, c'était... principal de pouvoir participer à cet événement parce que justement nos amis lausannois sont venus à 3 reprises durant le festival. On a passé des super moments ensemble, on a travaillé ensemble. Donc c'était d'une évidence que dès le moment où ils allaient faire une activité, d'autant plus pour le centre Alameda, qu'on y participe également. Donc on sera présent de part des artistes. On a parlé tout à l'heure de DJ Aoka, il y a aussi les DJ Groova qui vont être présents. Ils font partie de l'association Missol et du festival précédemment. Donc pour les jeunes voix, il était évident qu'on se rende aussi à Lausanne. Pour ce faire, il faut quand même les jeunes voix, allez, faut leur donner un petit peu de confort, hein, pour qu'ils y aillent en toute confiance. Donc du coup, on propose un transport en commun. Donc toute personne qui est intéressée à venir avec nous, sans parler que l'ambiance va être d'enfer, parce qu'on va déjà la mettre dans les bus, hein, soyons clairs. Toute personne qui souhaite venir à Lausanne avec nous, si elle peut se manifester en nous écrivant à notre adresse email, donc association.missol@gmail.com, de manière à pouvoir comptabiliser toutes les personnes qui vont se rendre là-bas et qu'on puisse organiser des transports en commun, donc location de minibus, etc. Parce qu'on trouve aussi génial de pouvoir le faire de cette manière. C'est aussi représentatif de ce qui s'est passé, tu demandais tout à l'heure par rapport aux villes, il y a eu une manifestation, mais juste phénoménale qui a eu lieu justement à Santiago, où moi je viens de Concepción, donc je suis super fière de ma région. Ils se sont tous mobilisés, ils sont allés à pied jusqu'à Santiago pour participer aux manifestations. Bon, les Lausannois, désolé, on n'ira pas à pied jusqu'à chez vous, mais en minibus, c'est faisable. Donc voilà, on reproduit ce qui se fait là-bas dans la continuité, dans la collaboration entre nous, entre chaque unité, tous pour le même but, c'est-à-dire qu'on travaille de toute façon de manière solidaire pour notre pays. Et c'est cool.
C'est fantastique, oui. Alors, on le rappelle, hein, c'est le 7, vendredi prochain, le 7 février, prix libre à l'espace autogéré à Lausanne. On va revenir maintenant sur... Doc, si tu voulais bien nous préciser un petit peu qu'en est-il du Centro Arte Alameda de Santiago du Chili, si tu voulais nous dire quelques mots à ce propos. Et puis ensuite, bien entendu, que si des questions surgiraient, eh bien, le temps est venu. Alors, ce centre, qu'est-ce que c'est ?
Le Centro Arte Alameda, c'est un cinéma historique, en fait, de Santiago, qui s'appelait le Normandie jusqu'au début des années 90, qui a été déplacé un peu plus loin, dans un meilleur endroit. Et en fait, il a été occupé à partir du moment où il a été vidé, pour en faire un centre autogéré, d'abord sur le cinéma et ensuite d'autres formes d'art et d'organisation, comme je le disais tout à l'heure. On s'est intéressé en fait à cet endroit pour deux raisons. La première raison, c'est que un des membres du collectif du Rebeldía, juste pour les francophones, Rebeldía, ça veut dire rébellion. Puis il y a un petit jeu de mots avec Rebel et Día.
Jour de la rébellion.
Ouais. Comme le café Zapatiste.
Absolument, absolument. C'est clair qu'on trouve encore dans les magasins équitables, mais de moins en moins, j'ai l'impression. Moi, je le trouve plus dans le coin où je suis.
Je crois qu'il y en a encore à Artenia à Lausanne, sans faire de publicité.
Non, mais si, il faut. Mais effectivement, il y a le café Rebeldía dans des. En plus, les emballages sont même très très joliment.
Ouais.
Dans les magasins équitables.
Donc effectivement, un Maya Zapatiste avec son foulard ou une Maya Zapatiste en fait. Anyway. Donc, un des membres du collectif, qui est un rappeur, Monosycope, qui participera à la soirée, en 1992 a participé à l'occupation de cet endroit. Donc lui, évidemment, il a un lien privilégié, il a gardé des contacts avec les gens qui travaillent à cet endroit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce cinéma, ce centre, a été incendié le 27 décembre, si je me trompe pas. Et pourquoi est-ce qu'il a été incendié? C'est parce qu'il se trouve au centre-ville et très proche de l'épicentre des manifestations. Donc, Plaza Metro Baquedano, c'est proche de la place Dignidad, Plaza Italia. Et puis en fait, comme c'est quand même des gens progressistes, ils ont prêté leur endroit pour des organisations au niveau des manifestations et puis aussi pour soigner les blessés. Du coup, intervention de la police, et puis ensuite, difficile à dire ou impossible de savoir si l'incendie s'est déclenché suite au lancement d'une bombe lacrymogène par la police, ou bien si c'était les gens qui étaient à l'intérieur, donc les manifestants, qui se sont ratés avec un cocktail Molotov. Personne n'arrive à le savoir précisément, même la responsable du centre a pas un avis tranché là-dessus. Du côté des autorités, ils s'expriment pas sur le sujet. Toujours est-il qu'il y avait un endroit génial qui, pour le moment, est réduit en cendres. Donc, le collectif qui s'occupe de faire vivre cet endroit continue à faire des activités, des projections comme ils peuvent dans d'autres endroits où ils réhabilitent certaines petites parties de leur lieu. Mais toujours est-il qu'ils ont décidé de continuer, ils ont décidé de continuer là, donc maintenant il faut reconstruire. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, donc par le contact d'El Mono, qu'on a décidé de pouvoir appuyer cet endroit-là. Pour faire le parallèle, la soirée du mois de novembre avait servi à aider des sauveteurs volontaires, donc ce qu'on appelait ici les street medics de Valparaíso. Et puis une association qui s'appelle Ojos de Chile, qui est une organisation en fait qui regroupe des médecins et des infirmiers qui soignent les blessés aux yeux. Parce qu'au Chili, ils utilisent les mêmes LBD qu'on a pu voir pendant les manifestations en France avec les gilets jaunes. C'est la même technique, ils pourraient viser les genoux, mais ils ne doivent pas être bien entraînés, ça touche les yeux, c'est dommage. Et donc là, on est sur 350 victimes qui sont soignées gratuitement ou à des tarifs très bon marché. Et en fait, les soignants, comme ils vont pas recevoir de soutien de la part des autorités, ils doivent se financer d'une autre manière. Donc c'est des dons privés. Les choses sont faites de façon très moderne et transparente. C'est-à-dire que si on va sur leur site, on peut voir les apports d'argent, d'où ils viennent ou pas. On peut faire des dons anonymes ou s'annoncer. Et puis en fait, ils expliquent de façon très claire à quoi est utilisé l'argent. On a acheté des sacs de plasma, on a acheté, que sais-je, des scalpels.
Ouais. Très bien. Ben voilà. Alors réaction solidaire, la solidarité, ben là, elle est tout à fait opérationnelle et comme tu l'as dit, tout à fait transparente et méticuleuse puisque j'imagine bien qu'ils font attention à chaque sou qu'il leur est donné. Donc on peut appeler les personnes également à voilà à souscrire et puis à venir surtout le 7 février prochain. Y aurait-il des questions? Il serait temps. Si ça n'est pas le cas, eh bien on va doucement arriver au terme de cet entretien. Y a-t-il pas de questions pour le moment? Non. D'accord. Alors moi j'en aurais une pour terminer et puis ensuite eh bien ce que je propose c'est qu'on fasse un petit tour de table sur là ce serait la question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez souhaité répondre. Voilà, s'il y a un appel à lancer ou alors on rappellerait peut-être les sites internet et les contacts des différentes entités. Mais avant cela, j'aurais voulu et pour que vous ayez le temps de penser à ce avec quoi vous allez terminer. À la radio, c'est un peu le mot de la fin qui est le mot clé. Hein. Eh bien, vous, comment, de votre point de vue, quel état d'esprit vous habite actuellement au devant de l'insurrection au Chili et de cette répression sauvage? Quel état d'esprit vous habite et comment vous voyez l'avenir? Est-ce que c'est une impasse selon vous? Est-ce qu'on va vraiment au chaos total? Est-ce qu'on va à une situation où pour en sortir, il va falloir vraiment, vraiment que des gens continuent d'être mutilés, d'être assassinés, etc. Ou est-ce que selon vous, eh bien, on arrivera à ce que cette déchirure avec les instances, le gouvernement puisse être comblée? À mon avis, je pense que là, on est dans une déchirure qui est sur laquelle on ne pourrait pas revenir. Mais j'aimerais avoir votre état d'esprit et votre, d'une certaine manière, le diagnostic que vous posez de votre position et puis ce vers quoi vous pensez que nous allons en ce moment. Je ne sais pas qui veut commencer à répondre. Dox, tu t'y colles?
Jimmy picole. Alors, ce qui va se passer, qui va arriver dans le futur, franchement, c'est très difficile à dire. Effectivement, tu as parlé de fractures ouvertes ou de plaies qui allaient rester ouvertes. C'est un peu une spécialité nationale au Chili. Hein. Donc les plaies de la dictature ont jamais été complètement refermées. Il n'y a pas eu de commission de justice et réconciliation comme on a pu le voir en Afrique du Sud, au Guatemala ou dans d'autres endroits. Donc il a fallu attendre pour avoir des premières condamnations pour les crimes de la dictature le début des années 2000. Donc plus de 10 ans après le retour théorique de la démocratie. Effectivement, donc je pense pas que les choses vont se refermer. Je pense pas que la classe dirigeante, qui est très 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 déconnectée de la réalité de sa population, le Chili c'est un des pays, des 20 pays les plus inégalitaires du monde, je crois le 14e du classement, quelque chose comme ça. Et je pense que ça peut difficilement changer, et en tout cas pas dans un laps de temps aussi court. Maintenant, effectivement, il y a une revendication énorme qui encadre toutes les autres, c'est de revoir cette constitution et de la changer. On peut pas avoir une démocratie qui fonctionne avec une constitution qui a été dictée par un pouvoir fasciste. Visiblement, ça ne fonctionne pas. Personne n'avait vraiment voulu s'y attaquer parce que le Chili est un pays très conservateur. Et là, il y a enfin une échéance. Donc, ce qui s'est passé pour répondre ou essayer de calmer un peu les manifestations, il y a eu un certain nombre de concessions sociales qui ont été faites. Donc, il y a eu des primes. Les retraites qui étaient trop basses ont été un petit peu augmentées. C'est un peu des emplâtres sur des jambes de bois. Pour faire réellement avancer la situation, il faut effectivement passer par un changement de constitution, en espérant qu'elle revienne le plus possible sur le modèle néolibéral. Il y a une échéance là-dessus, c'est le 26 avril, où il va y avoir un référendum. Ce référendum va contenir deux questions. La première question, c'est de savoir est-ce qu'on change la constitution ou pas. Là, a priori, la réponse devrait être oui, vu les niveaux, les pourcentages de soutien au mouvement social. Je pense que cette réponse va être oui. Puis la question suivante, elle est plus difficile. Et c'est là qu'on pourra voir s'il y avait réellement eu une évolution des positions ou de la mentalité des Chiliens. C'est de savoir est-ce que cette assemblée constituante doit être complètement civile, c'est-à-dire avec, comme on a pu le voir, en tout cas on en a eu dans le canton de Vaud, je crois que vous avez eu ici à Genève aussi une assemblée constituante.
Oui.
La question est de savoir est-ce qu'elle sera strictement élue pour cette occasion, donc est-ce qu'elle va, elle va comprendre que des citoyens qui auront été choisis pour cette tâche, ou bien est-ce qu'elle sera mixte, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura des citoyens élus plus des parlementaires en place.
évidemment, l'option du pouvoir du gouvernement, c'est d'y remettre quelques-uns de leurs laquais. Ces gens qui sont au congrès à Valparaiso depuis des années et des années et des années, qui touchent des fortunes à vie. Ou bien est-ce que réellement la population pourra s'exprimer en envoyant des représentants qui auront à peu près les coudées franches? C'est ça la grosse question. Pour
un,
moi.
Un enjeu délicat en tout cas. Donc le 26 avril 2020.
Oui.
D'accord. Merci Dox. Valéwe, et toi alors, ton état d'esprit et comment vois-tu l'avenir?
Mon état d'esprit et comment je vois l'avenir, ça craint. Ça craint énormément parce que chaque jour qui se passe, que ça soit au Chili, en Argentine et n'importe où, ben, dans tous les peuples qui résistent et qui veulent le changement, au Chili, ben, il y a des morts. Il y a des morts qui s'accumulent jour en jour. Il y a des blessés. Il y a des prisonniers politiques qui tombent sur des montages. Ça, c'est la réalité de tous les jours jusqu'à maintenant. C'est douloureux de voir depuis l'extérieur, d'observer ce qui se passe sans rester indifférent. C'est extrêmement douloureux. Maintenant, oui, ben c'est pour ça que je suis là, que je continue, continue à participer fortement à ces activités qui se font de l'extérieur, parce que je pense positivement et j'ai un espoir en espérant vraiment qu'il y aura un changement. Rien que le fait que maintenant, dans les protestations pour dire on voit les drapeaux, ça veut dire beaucoup. Il y a une reconnaissance qui se fait. Maintenant, c'est terriblement dur. C'est terriblement dur parce que les enjeux sont tellement forts et les personnes au pouvoir ont un pouvoir tellement fort. Et puis la médiation, et puis c'est pour ça d'ailleurs que je voulais dire que je remercie la comète, la banane, parce que la radio, c'est tellement fort de communiquer, de dire ce qui en est la situation. Alors moi, j'ai l'impression de marcher un petit peu sur des œufs. Du style que chaque jour qui se passe, chaque jour qu'on voit l'information qui se diffuse, qu'on nous montre, ça nous fait peur. Maintenant, oui, d'un côté, je dis le soulèvement populaire, ça reste quand même la force du peuple. Moi, je suis du côté du peuple et je crois en cette force et cet esprit d'unité. Maintenant, jusqu'à où ça va nous mener, on ne sait pas. Le Chili, maintenant, au-delà du Chili, il y a une réalité qui nous unit tous, c'est le problème médiambiental, le problème de l'environnement, le problème de la terre, le problème des eaux. En fait, il y a aussi une réalité qui fait que, effectivement, les ressources naturelles s'épuisent, mais elles ne s'épuisent pas parce que, ma foi, celle-là, c'est l'évidence. Elles s'épuisent parce qu'il y a justement une force qui fait qu'elles s'épuisent. Et c'est là dont le climat joue un rôle important. Les changements climatiques, c'est ce qui nous unit, en fait, les peuples indigènes. Non seulement les Mapuches, mais les peuples indigènes en général, sont en fait les gardiens de cette, les gardiens et ceux qui dénoncent le plus ce qui se passe. Alors oui, il y a le Chili, il y a le climat. Au Chili, il y a les zones de sécheresse aussi, très fortes, qui se voient non seulement au Chili, mais aussi dans les pays avoisinants. Il y a un problème de néolibéral. Il y a un problème qui est terriblement fort et ça doit être une lutte convergente qui doit nous unir ici, non seulement au Chili, mais en Europe aussi, une réalité, une prise de conscience à faire en ce qui concerne notre mode de vie, notre mode du quotidien. Et bien sûr, moi, le message que je voudrais dire ici, c'est de remettre en question notre mode de vie. Et de remettre en question ce que nous utilisons dans tous les jours. Alors oui, je suis bien contente d'être en Suisse et de voir qu'il y a un recyclage qui se fait, qu'il y a une précaution qui se fait vis-à-vis de ça. Mais ça doit aller un peu plus loin. On doit voir les luttes de ce qui se passe de l'Amérique du Sud. On ne doit pas penser que ça se passe là-bas et voilà, et puis ça se passe là-bas. Non, ça nous unit. Ce qui se passe aussi en France, c'est peut-être pas le thème des gilets jaunes, mais je veux dire, ce problème, ce système néolibéral, c'est un système qui nous touche tous. Ça commence peut-être plus là-bas au sud parce que là, ils le vivent vraiment dans leur chair. Mais ça va nous arriver aussi à nous aussi. Et aussi, si on reste comme ça ici à observer, ça va pas aller non plus. Alors le message que je veux dire, c'est remettons-nous en question et continuons dans cette onde de solidarité.
Marcella.
Ben, je rebondis totalement et c'est justement la mission de l'association MISOL, mission solidaire d'ailleurs. Et parce que nous, aujourd'hui, avec le festival, évidemment, on a récolté des fonds et on va continuer à en récolter. Mais on se rend compte que les projets pour lesquels, enfin, qu'on a pu soutenir financièrement sont des projets d'urgence. Et tous les projets qui nous sont proposés sont des projets d'urgence. Il faut réagir de suite pour aider les premières lignes de différentes villes. C'est sur le plan médical, sur le plan juridique, mais on est toujours dans l'urgence. Donc, ça nous inquiète, mais d'un autre côté, ce qui nous rassure, c'est que, en tout cas, nous, on a décidé aussi, et je rejoins donc Wally, c'est d'aller aussi sur quelque chose de plus long terme. Donc, les projets qu'on veut proposer et qu'on veut mettre en place, c'est aussi des projets d'éducation d'une certaine manière, de culture, de pouvoir apporter aussi ce genre de soutien, non seulement là-bas au Chili, mais également ici en Suisse, également ici à Genève. Et c'est justement de pouvoir mettre la lumière sur notre problématique là-bas, n'est pas que là-bas. Attention, c'est en train de toucher d'autres pays, y compris ici à la frontière, y compris chez nous. Donc on veut vraiment mettre tout ça en lumière. Maintenant, le Chili en tant que tel, il y a juste un souci par rapport aux votations des parlementaires, etc. Parmi eux, il y a des anciens pingouins. La population ne leur fait plus du tout confiance, alors que c'était des leaders de l'époque. Donc c'est très très compliqué, je ne sais pas du tout ce que ça va donner par la suite. On a un projet en collaboration avec d'autres unités, de faire une exposition justement sur le Chili. Donc c'est en train de se préparer sur trois thèmes, trois époques clés. Et une des époques phares va être le futur. Mais on est tous en train de se poser la question, mais c'est quoi le futur du Chili? On n'en sait rien. Ça va être intéressant de pouvoir débattre et de pouvoir réfléchir là-dessus, parce qu'on n'a aucune idée. On sait juste que, en avril, il y a ces votations. On a aussi des informations venant du Chili comme quoi le mois de mars va être extrêmement chaud. Il va falloir se préparer de nouveau à agir en urgence, en solidarité par rapport à là-bas. Pas du tout sûr que les médias ici en parlent, puisqu'on n'en parle quasiment pas. Aujourd'hui, il y a eu un article pour parler des 4 morts qu'il y a eu durant la semaine. Merci, ça faisait longtemps qu'on n'en entendait pas parler. Il faut qu'on parle de morts pour qu'il y ait un article. C'est pas normal, c'est pas logique. Donc à voir ce que ça va donner. On reste attentif, mais la lutte, elle continue, et tous ensemble. Et ce qui est rassurant, c'est qu'on est tous ensemble.
Pourrait-on dire que...
Todos juntos.
Pourrait-on dire que tout reste à faire, mais que tout reste possible?
Exactement. D'accord. En tout cas, nous, c'est la vision que nous avons.
Alors, à contresens, rappelez peut-être les sites internet sur lesquels les personnes peuvent justement se rendre pour compléter les informations qu'elles vont recueillir et puis se solidariser.
Alors nous, on n'a pas encore de site internet, c'est en cours, mais tout contact peut être fait avec l'association via, je répète l'adresse, association.misol@gmail.com. Et on a une assemblée générale qui aura lieu le 9 février. Au pavillon bleu à Genève, donc de 14h à 17h, tout le monde est le bienvenu. On présentera les différents projets et comment on va s'organiser pour la suite, avec différentes commissions justement qui vont traiter du juridique, des droits de l'homme, de l'environnement, de la jeunesse et évidemment ce qui fait notre ADN, tout ce qui est culture et artistique. Voilà.
Très bien, merci beaucoup Marcella. Oui.
Je voulais dire justement aussi, pour rebondir pour ce qui est l'actualité, les informations en ce qui concerne les Mapuche, Mapuche Suissa, c'est un Facebook, mais il n'y a pas besoin d'être ami parce que tout est public. Pratiquement tout est public pour avoir un peu plus d'informations en ce qui concerne le Chili et l'Argentine, et aussi à Biayal en général, ce qui se passe aussi en Bolivie et ce qui se passe un petit peu partout ailleurs, la sensibilité. Alors en ce qui concerne l'information. Merci.
Merci beaucoup, Walioué. Merci beaucoup à toi. Docs, Rebel Dia, on trouve ça sur le net ou sur les réseaux sociaux?
Non, Rebel Dia, c'est un collectif qui est récent, qui a été créé pour organiser une soirée, qui en est à sa deuxième soirée. Donc son principal vecteur de communication, c'est le groupe WhatsApp.
Venez participer, simplement.
C'est avec ça qu'on va terminer.
Donc l'idée c'est de participer aux soirées, on est là, il y a des espaces et du temps pour la discussion. Et les gens qui sont intéressés, qui ont envie d'apporter quelque chose ponctuellement ou sur la durée, sont les bienvenus.
Et alors la soirée, c'est Réaction Solidaire, en soutien au Centro Arte Alameda de Santiago au Chili, le vendredi 7 février 2020. L'entrée est à prix libre de soutien. C'est l'espace autogéré à Lausanne, c'est avenue César Roux 30. On s'y rend avec le train et le métro pour les personnes...
Ou les bus.
Ou les bus.
En hélicoptère avec Marcella.
Ouais, chiche.
Mais en tout cas, voilà, il y aura un voyage à part collectif organisé depuis Genève avec Marcella qui s'en occupe.
Oui, l'association Missel, hein, pas tout seul. Hein.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'association Missel. Merci beaucoup à vous d'être venu jusqu'à nous ici aussi.
Merci aussi à toi.
Et courage pour la suite des opérations.
Ouais,
ciao,
merci. Marie Chiweo.
Merci à toi, merci aussi Lure.